à ton peuple de bonnes dispositions des cœurs qui leur permettent, Seigneur, d'accueillir favorablement ta parole, de lui réserver l'accueil qui lui revient. Parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, après plusieurs dimanches passés à examiner à la lumière de la parole de Dieu la vie de Saül et celle de David, nous allons les laisser un tout petit peu tranquilles pour nous tourner vers autre chose. Alléluia. Pour nous tourner vers chacun de nous. Essayer de voir qui nous sommes réellement alors que nous sommes dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde. Alléluia. Je voudrais parler aujourd'hui du disciple de Jésus, deux points, thermomètre ou thermostat. Eh bien, nous allons voir, chacun va se reconnaître, s'il est un chrétien thermomètre, s'il est un chrétien thermostat. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre, donc nous allons lire le chapitre 1er, versets 1 à 11. Nous lisons 3 Jean, chapitre 1er, 1 à 11. Ce n'est pas 1 à 11. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chance de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Gloire au Seigneur. Avant d'aller à la croix pour accomplir la raison de sa venue sur cette terre, c'est-à-dire donner sa propre vie pour le salut de l'humanité, eh bien le Seigneur Jésus a posé un geste fort en se tenant devant son Père dans une intercession extraordinaire pour implorer ce dernier à répandre sa grâce sur ses disciples. Nous trouvons cette prière qu'il a faite dans l'Évangile de Jean chapitre 17, prière qui est appelée prière sacerdotale, parce que dans cette prière, le Seigneur, à l'instar des sacrificateurs de l'ancienne alliance, eh bien, se tient devant Dieu et comme médiateur, comme Messie et représentant des siens pour intercéder pour eux. Alléluia. Il intercède, il se tient devant Dieu, il présente tous ses disciples de tous les âges, depuis le Nouveau Testament, les premiers disciples, jusqu'à ceux qui reviennent. Il intercède, il implore Dieu de répandre sa grâce, de les protéger, etc. Mais en même temps, dans cette prière sacerdotale, le Seigneur établit certaines vérités relatives au statut de ses disciples. C'est qu'ils sont véritablement alors qu'ils sont sur cette terre, alors qu'ils sont dans ce monde. Écoutez ce qu'il dit au verset 14 à 17 du chapitre 17 de Jean, l'évangile de Jean. Alors qu'il s'adresse au Seigneur, il lui dit ceci: « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Il établit, il proclame une vérité claire concernant le statut, mes amis, de ses disciples, de ces hommes et de ces femmes qui se sont tournés vers lui, qui sont entrés dans une relation vivante, une relation existentielle avec lui. Eh bien, ceux-là, eh bien, à propos de ceux-là, il déclare qu'ils ne sont pas du monde, alors même qu'ils sont encore dans le monde. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, parce que la parole de Dieu est claire. Elle déclare que le monde entier est sous le pouvoir, sous la puissance de Satan. Le monde entier, ce monde dans lequel nous nous trouvons, l'environnement moral et spirituel, est donc, mes amis, eh bien, souillé, corrompu, rendu mauvaise par la présence de Satan. Et à cause de tout cela, eh bien, la Bible déclare que ce monde est mauvais pour le chrétien. Il va le combattre, il va essayer par tous les moyens de l'influencer. Ainsi, le chrétien, le véritable, le disciple de Jésus, se retrouve dans ce monde, entouré par ce monde à la fois hostile, mais aussi séduisant. Car ce monde, avec toute sa séduction, va essayer, mes amis, autant que faire se peut, chercher à influencer le chrétien. Chercher à influencer, en mal évidemment, le chrétien pour l'empêcher d'avancer sur le chemin de l'éternité, le chemin qui conduit tout droit vers la gloire et la félicité éternelle. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Étant dans ce monde, mes amis, eh bien, le monde va tout faire. Il va nous solliciter. Il va tenter de s'introduire chez nous. Il va essayer de trouver une faille dans notre armure pour essayer de frapper. Il va chercher par tous les moyens. Et je vous dirais que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Le monde a tant de moyens pour essayer d'influencer le chrétien, pour essayer de corrompre ses pensées, pour essayer de souiller ses sentiments. Nous sommes dans ce monde et nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que d'avoir une attitude digne des enfants de Dieu. Le monde nous guette, il cherche une faille dans notre système de défense, il veut nous influencer, il veut nous faire adopter, eh bien, son propre niveau de vie, sa philosophie, sa psychologie, mes amis, ses valeurs. Oui, le monde a ses valeurs. Il y a des principes dans ce monde qui n'ont rien à voir avec ceux du royaume des cieux. Le monde va essayer de nous rendre conformes en lui et de tout faire, mes amis, et ce de manière sournoise, de manière subtile, de tout faire pour arriver à détruire la présence du Seigneur en nous, pour essayer de nous arrêter dans notre marche vers la gloire. Nous voyons donc que l'Église de Jésus, depuis que le Seigneur l'a bâtie jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette Église-là a toujours fait l'objet de toutes sortes d'attaques sur le plan moral, sur le plan spirituel et sur d'autres plans, eh bien, toutes sortes d'attaques de la part du diable, de la part du monde, qui est évidemment sous l'influence, sous la puissance du diable. Et ce monde-là, le Seigneur l'a mentionné à plus d'une fois dans sa prière sacerdotale, ce monde-là, mes amis, n'est pas un simple concept, une simple idée. Mais il est une terrible, horrible et sinistre réalité qui nous environne et qui va essayer par tous les moyens de nous faire adopter ses manières, sa façon de penser, ses manières d'agir. Vous voyez, il va essayer de nous faire adopter son comportement, sa conduite, pour nous disqualifier. Car le diable sait que celui qui fera tout pour rester à l'abri de l'influence du monde, celui qui fera tout et qui ne sera pas influencé par le monde et qui poursuivra sa marche de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, eh bien celui-là, lorsqu'il arrivera au terme de son voyage ici-bas, c'est dans les bras du Seigneur qu'il se retrouvera. Alléluia. Celui-là recevra, mes amis, la couronne de vie, la couronne de gloire. Celui-là entrera dans le repos éternel. Le diable sait tout cela. Voilà pourquoi il essaye d'influencer davantage le monde et de l'amener à exercer une pression de plus en plus grande sur nos vies. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera pareil jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y aura pas de période de répit pour l'Église, où l'Église pourra se dire, enfin, maintenant je peux croiser les bras, le monde s'est éloigné un tout petit peu de moi, pas du tout. Nous sommes dans cet environnement. Le monde essaie par tous les moyens d'exercer une mauvaise influence, d'essayer de nous avoir au niveau de nos pensées, au travers de toutes sortes de philosophies, de différentes natures. Voyez, il va essayer de nous faire adopter, son propre niveau de vie, sa manière d'être, sa manière de faire. Voyez, mes amis, face à toutes ces influences politico-socio-économiques et à toutes ces pressions philosophico-mystico-religieuses, eh bien, nous allons retrouver deux réactions de la part de l'Église, de la part de ceux qui se réclament du Christ. Deux réactions, deux attitudes face à toutes ces pressions, face, eh bien, à toutes ces tentatives de la part du monde de nous influencer à mal, de nous disqualifier, de nous entraîner sur la voie mortifère qui conduit tout droit vers la destruction et vers la ruine éternelle. Face à donc à tout cela, il n'y a que deux réactions de la part de l'Église, ou du moins de la part de ceux qui composent l'Église, de la part des disciples de Jésus. Deux attitudes. La première attitude, c'est soit c'est laisser influencer par le monde pour diverses raisons et finir par succomber à sa pression, finir par adopter sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière de réfléchir, sa manière, bref, de s'exprimer. Et cela, hélas, conduit à toutes sortes de compromissions, comme nous allons en parler. Cela conduit à des attitudes abominables. Et croyez-moi, nous avons de plus en plus d'hommes et de femmes qui se réclament de Jésus, mais qui cependant sont de plus en plus influencés par le monde, sont de plus en plus sous la pression des ténèbres au travers du monde. La deuxième attitude ou la deuxième réaction, c'est de résister avec une foi ferme et de continuer sa marche avec le Seigneur. Alléluia. Comme ceux qui nous ont précédés, les premiers disciples, notamment les apôtres, malgré, mes amis, la pression du monde, certains ont même fini par être crucifiés, certains ont même fini par connaître le martyr, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à voir les yeux fixés sur le Seigneur, car ils regardaient au-delà du visible. Ils n'ont pas considéré ce monde, avec tout ce qu'il offre, comme une priorité. Au contraire, eh bien, ils ont fermé les yeux sur le monde et ils les ont ouverts sur l'éternité, alors que le monde continue à les persécuter. Donc, deux attitudes. D'ailleurs, un état des lieux de l'Église de Jésus-Christ met en exergue cette vérité. En d'autres mots, en regardant l'Église de Jésus, on peut trouver justement ces deux réactions qui constituent, si vous voulez, les deux catégories de chrétiens, les deux types de chrétiens. Où que l'on aille, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette terre, là où il y a l'Église de Jésus, là on trouvera toujours ces deux réactions, ces deux attitudes, ces deux catégories. Lesquelles? D'abord, on trouvera toujours des chrétiens thermomètres. Et puis ensuite, des chrétiens thermostats. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour mieux comprendre cette métaphore que j'utilise pour exprimer cela, il faudra que nous définissions un tout petit peu, que nous regardions ce que ça veut dire, ces deux réalités que sont le thermomètre et le thermostat. Le thermomètre, parlons-en un tout petit peu. Eh bien, c'est un instrument qui n'a d'autre fonction que de mesurer la température ambiante, oui ou non? Voilà. Le thermomètre n'a pas d'autre fonction que de refléter la température ambiante. Si la température ambiante baisse, eh bien, le mercure fera quoi? Il va baisser. Donc, le thermomètre n'ira jamais à l'encontre de ce qui se passe à l'extérieur. Il s'adapte, c'est comme un caméléon. En d'autres mots, le thermomètre a un comportement caméléonesque. On change, mais selon le milieu dans lequel on se trouve. Voyez? Ça, c'est la fonction du thermomètre. Qu'il soit un thermomètre à mercure, à infrarouge ou électronique, eh bien, il n'en demeure pas moins que son rôle, le but pour lequel il a été fabriqué, eh bien, c'est de relever, c'est de faire, donner la température ambiante, refléter la température qui règne à l'extérieur. En d'autres mots, le thermomètre sera toujours en phase avec la température extérieure. Vous voyez? Le thermomètre sera toujours en harmonie. Il va toujours se conformer à la température ambiante. Eh bien, s'il fait un tout petit peu chaud, le mercure va réagir en fonction de cette petite chaleur. Si la température baisse et atteint des niveaux négatifs, la même chose. Vous ne pouvez pas demander à un thermomètre de faire autre chose que d'être le reflet de la température ambiante, d'être la manifestation, d'être le témoignage, mes amis, de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà donc la fonction du thermomètre. Qu'en est-il du thermostat? Ah. Eh bien, le thermostat, c'est un appareil dont la fonction est de maintenir la température constante. Alléluia. Le thermostat est réglé à une certaine température. On le voit en Europe, eh bien, ou en hiver, quand il fait très très froid, les gens chauffent leur maison, et pour maintenir la température à un certain niveau, au niveau confortable, eh bien, on règle le thermostat à la température voulue. Vous voyez, on le met par exemple à 22 degrés. Quel que soit le temps qu'il fait derrière, grâce au thermostat, eh bien, la température de la maison reste toujours de 22 degrés. Il y en a qui le règlent un peu plus, ceux qui sont frileux. On le met à 24, on le met à 25. Vous voyez? Et il va maintenir. À chaque fois que la température baisse à l'extérieur, eh bien, le thermostat se déclenche ou s'enclenche pour commander la chaudière qui est donc la source de chaleur. Alléluia. Et ainsi, qu'on soit en hiver, qu'on soit en été ou dans n'importe quelle saison, eh bien, la température à l'intérieur de la maison où se trouve un thermostat est toujours constante. Donc nous voyons que ces deux instruments illustrent chacun évidemment dans ses limites les deux types des chrétiens tels que nous les trouvons dans l'Église de Jésus-Christ. Deux catégories de croyants. C'est donc une métaphore qui va essayer de nous faire comprendre, qui va nous aider à comprendre, eh bien, c'est qu'un chrétien thermomètre. Et c'est qu'un chrétien thermostat. Et le passage que nous avons lu, eh bien, est aussi une illustration de ces deux vérités, de ces deux réalités. Commençons avec le chrétien thermomètre. Vous l'avez compris. Le chrétien thermomètre, ben, c'est celui qui s'adapte à la température ambiante. Voilà. Il s'adapte au milieu dans lequel il se trouve. Voilà. S'il fait de plus en plus froid, ben, lui aussi devient... Voilà. Il n'a pas d'autre choix. Voyez? Et ceci est contraire à sa vocation. Parce que, étant habité par le Seigneur, il n'a pas d'autre choix que de rester à la température céleste. En venant au Seigneur, en ayant ouvert notre cœur à lui, nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit est venu en nous, le feu de Dieu, eh bien, est appelé à nous maintenir à une certaine température morale et spirituelle. Alléluia. Mais cependant, pour les chrétiens thermomètres, c'est tout le contraire, mes amis. Ce sont des chrétiens qui se conforment au monde. Alors que la parole de Dieu déclare dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. » Alléluia. Ne nous conformons pas au monde. Voilà la recommandation du Seigneur. Ne pas se conformer au monde. Ne pas s'adapter, mes amis, à la manière d'agir du monde. Le monde a sa vision de choses. Le monde a sa manière d'être. Le monde a sa psychologie. Le monde a sa compréhension de choses. Le monde a son éthique, voyez-vous. Et la Bible veut que nous ne puissions pas nous conformer au monde. Mais quand on est chrétien thermomètre, eh bien, hélas, quelle que soit la force de la déclaration de la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, qui nous demande de ne pas nous conformer au monde, eh bien, nous finissons toujours, hélas, par nous y conformer. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voyez? Que nous puissions nous retrouver dans cet état de thermomètre, de chrétien thermomètre. Voyez? Quand on est avec le gens du monde, on devient comme eux. Voilà. On parle comme eux, et c'est des insanités, des grossièretés, et c'est des vésanies qui sortent de nos bouches. Et quand nous sommes avec les chrétiens, nous essayons, avec les autres croyants, nous essayons d'adopter des attitudes prétendument chrétiennes. Selon le milieu, eh bien, nous prenons telle ou telle autre couleur. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Cette vie d'instabilité, cette vie des caméléons, cette vie thermomètre ne glorifie pas le Seigneur. Et tous ceux, mes amis, qui vivent de cette manière finiront très mal. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait qu'au terme de cette prédication, eh bien que nous puissions comprendre, que nous regardions à nous-mêmes, que nous puissions faire une sorte d'échographie personnelle ou de radiologie personnelle pour avoir une vraie idée de ce que nous sommes. Et si nous sommes des thermomètres, alors il est grand temps, mon frère, ma sœur, de tout faire pour quitter cet état. Car le sort des chrétiens des thermomètres, eh bien, c'est le sort qui a été réservé à l'église de Laodicée. Le Seigneur dit, puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, en d'autres mots, puisque tu es tiède, alors, je vais te vomir de ma bouche. Il ne s'adresse pas au monde, hein. Il s'adresse à l'église de Laodicée. Mes amis, nous courons tous ces dangers d'être vomis un jour, d'arriver devant lui et de s'entendre dire, comme nous l'avons vu la fois dernière, nous entendre dire de la part du Seigneur, eh bien, arrière de moi, je ne te connais pas. Nous aurions beau lui dire, mais Seigneur, rappelle-toi, c'est moi qui dirigeais la chorale à la borne. Rappelle-toi, c'est moi qui prêchais à la borne. Rappelle-toi, Seigneur, c'est moi qui faisais ceci. Je même chassais les démons en ton nom. Je même prophétisais, Seigneur, et les choses se sont accomplies. Seigneur, j'ai accompli pas mal de miracles. Le Seigneur dira, oui, mais je n'étais jamais chrétien thermomètre. Mes amis, le travail du monde est très subtil. Les conséquences de son influence, de sa pression sur notre vie, sont suffisamment lentes pour que vous et moi, nous puissions le réaliser. C'est tellement lent, c'est tellement subtil que cela échappe à notre conscience. C'est ainsi que beaucoup ne se rendent compte que trop tard. Quand on se réveille, on a trois femmes. On dit, oh, comment expliquer? Ça fait 20 ans que je prêche la monogamie. Ça fait 20 ans que je parle de ça. Mais comment expliquer que je me retrouve dans une vie de polygame, invétéré? Eh oui, c'est tellement sournois, c'est tellement subtil que cela échappe à notre conscience. Pour bien vous faire comprendre cela, je vais recourir à une allégorie, celle de la grenouille. Imaginez une grenouille qu'on met dans une marmite remplie d'eau froide. L'eau qui est à la température ambiante. Cette grenouille, se sentant tranquille, va nager sans aucun problème. Imaginez qu'on prenne la même marmite, qu'on la mette sur un feu et qu'on allume le feu. Eh bien, petit à petit, le feu va commencer à chauffer la température. Cette eau qui était au départ à la température ambiante va, alors que la température grimpe, devenir tiède, oui ou non? Et la grenouille ne va pas se rendre compte. Vous voyez, parce qu'elle est à l'intérieur. Elle va même, eh bien, trouver cela agréable, une eau tiède, et va continuer donc à s'y amuser. Eh bien, l'eau va continuer à chauffer davantage, jusqu'à ce que cette eau devienne tellement chaude, finisse par affaiblir la grenouille, par l'engourdir. Et le résultat, cette grenouille, eh bien, va finir par cuire et par mourir sans avoir eu l'occasion de s'extraire de la marmite et de partir. Belle allégorie. Maintenant, supposons que nous prenions la même grenouille. Nous avons là une marmite qui est sur le feu. L'eau est en train de bouillir à 50 degrés Celsius. Nous prenons la même grenouille. Nous la jetons dans cette eau chauffée. Eh bien, la même grenouille réagirait autrement. Elle donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et irait dehors, loin de la marmite. Vous voyez la différence? C'est ainsi que le monde agit pour beaucoup d'entre nous. C'est tout doucement que la température se met à chauffer. On ne ressent rien. On continue. On vient, on parle en langue. On lève les bras. On danse. Yaya Yesu. On fait des proclamations, eh bien, rocambolesques. On proclame haut et fort qui est Jésus. On mémorise des psaumes. Eh bien, des versets bibliques, etc. Mais on est dans une marmite. Et la marmite chauffe de plus en plus. Jusqu'à ce que nous finissions, mes amis, par mourir. Voilà comment le monde agit. De manière subtile et sournoise. Et beaucoup d'entre nous, mes amis, n'arrivent pas à comprendre. Ne le réalisent pas. Parce que c'est tellement subtil. Ça se passe comme cette grenouille dans cette eau qui, petit à petit, va être chauffée, dont la température ne va pas monter tout d'un coup comme ça, de 0 à 50, pas du tout. C'est progressif, oui ou non? Progressivement. Si la température ambiante était allée de 20 degrés, l'eau était aussi à 20 degrés, voyez? Et puis, petit à petit, la température grimpe jusqu'à 5 heures. Eh bien, le croyant étouffe et se retrouve en plein monde. Et lorsqu'on se tourne, mes amis, vers le monde, lorsqu'on retourne dans le monde, eh bien, on ne peut plus être avec le Seigneur. Alors là, nous retournons à ce que nous avions vomi autrefois. Nous retournons à nos anciennes passions, à nos anciens travers. Nous retournons à notre vie de transgression, à notre vie d'abomination. Et cela pour notre propre destruction. Donc, dans le passage que nous avons lu, Eh bien, nous trouvons des exemples des chrétiens thermomètres. Des gens qui un jour se sont tournés vers le Seigneur. Des gens qui un jour ont eux-mêmes eu à avoir des responsabilités au sein de l'Église. Des gens qui un jour, eh bien, ont fini par avoir une certaine influence au niveau de la congrégation. Mais qui un jour aussi ont été gagnés sous la pression du monde, la pression de l'orgueil du monde, de l'arrogance du monde. Ils ont fini par lâcher et par adopter ces attitudes grandiloquentes et autres. Commençons par Diotrephe. Voilà notre premier type de chrétien thermomètre. Nous l'avons lu. Diotrephe. Les 8 premiers versets du chapitre que nous avons lu, ou du moins du passage que nous avons lu, eh bien, font l'éloge d'un certain Gaius, un frère très bien, avec un très bon témoignage, un frère à qui tout le monde rend un bon témoignage. Et le témoignage de Gaius est arrivé jusqu'aux oreilles de l'apôtre Jean. Cet apôtre est à la fin de sa vie. Il faut savoir que c'est le seul apôtre qui a vécu longtemps, l'apôtre Jean, alors que les autres étaient déjà décédés. Nous sommes donc après l'an 70. Et comme vous le savez, l'an 70 est une grande référence dans l'histoire de l'Église. Car en l'an 70, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, eh bien, les Romains, sous la conduite du général Titus, avaient envahi Israël, avaient détruit Jérusalem, avaient détruit le temple, et à partir de ce moment-là, en l'an 70, après Jésus, a commencé ce qu'on a appelé la grande diaspora juive, qui va se terminer seulement en 1948, avec la constitution de l'État d'Israël. Donc, Jean loue la vie de Gaius. Dans les 8 premiers versets, il fait l'éloge de sa vie. Il parle de ce qu'il est véritablement pour la communauté, mais surtout pour le Seigneur. Et quand on arrive au verset 9, eh bien nous voyons que le ton du message change du tout au tout. Il est question cette fois-ci d'un homme qui s'appelle Diotrephe, qui est tout de suite décrit comme étant celui qui aime à être le premier parmi eux. Ah, celui qui aime à être le premier. Être le premier, n'est-ce pas une des caractéristiques du monde? Être toujours vu, mis en évidence, s'asseoir au sommet de tout le monde, voyez-vous? Être là à recevoir les éloges de la part des hommes qui vous vantent, qui vous admirent. Nous sommes dans l'Église, ceci ne se passe pas dans le monde. C'est donc une attitude mondaine, car dans l'Église il n'y a qu'un seul qui est digne d'être loué, qui est digne d'être adoré. Le seul qui est digne, à chaque fois que nous nous ressemblons, eh bien, d'occuper le trône, celui-là, c'est Jésus et Jésus seul. Quant aux autres, qu'ils soient pasteurs comme moi, qu'ils soient diacres, anciens, diaconesses, qu'ils soient apôtres, docteurs ou autres, ils sont d'abord et avant tout des âmes pour lesquelles il est mort à Golgotha. Et à ses yeux, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de chef, un seul chef, Christ. Alléluia. Et Christ seul. Mais cet homme, au comportement abominable, eh bien, nous est décrit comme quelqu'un qui cherchait à être le premier. Voyez. Et l'expression « aimer à être le premier » se trouve au participe présent. Ça a une grande importance. Ça nous montre que cette attitude n'était pas quelque chose de ponctuel, un simple réflexe. À un moment, il dit, tiens, ngape ba monanga, je suis le premier, pas du tout. Le fait que la forme verbale est au participe présent montre que c'était un comportement permanent. C'était dans son caractère. Ça commençait par un désir de vouloir être le premier, et cela s'est transformé en une attitude, et puis en une habitude, et puis en un état psychologique, moral et spirituel. Vouloir être le premier. Donc, Jean nous décrit cet homme comme étant un homme égoïste. C'est ça la caractéristique de ceux dans l'Église qui cherchent à être toujours le premier. Ils sont prêts à écraser les autres. Voyez, une attitude machiavélique pour arriver au but, pour arriver à leur fin. Enfin, qu'on me reconnaisse que je suis apôtre, qu'on me reconnaisse que je suis l'évêque, qu'on me reconnaisse que je suis ceci ou que je suis cela. Une attitude égoïste et égocentrique que nous trouvons dans les chefs de cet homme Diotref. Voyez ? Et puis, non seulement il cherche à être le premier, il cherche la prééminence. Le terme qui est utilisé là-bas en grec, c'est le même qui est utilisé dans Colossiens pour parler de la prééminence de Jésus. Voyez ? Ça montre, mes amis, toute la folie de cet homme, tout l'orgueil de cet homme, alors qu'il fait partie de l'Église du Seigneur, Église qui est censée être soumise au seul chef, à savoir Jésus. Nous avons là un individu complètement obnubilé par son arrogance, par son égoïsme, par un égo surdimensionné, voyez, préoccupé par ses propres intérêts, plus que les intérêts du peuple de Dieu, eh bien cet homme-là, dans sa folie, se comporte comme étant le chef dans l'Église. Voyez, voyez. J'ai horreur d'entendre les gens dire « Ah oui, mais c'est le chef de telle Église ». Vous avez entendu ça? Ah ben alors, dans ce cas, ce n'est pas l'Église de Jésus. Parce que l'Église de Jésus n'a pas de chef. Non, la bicéphalie n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de chambre haute, de chambre basse comme dans notre parlement. Il y a un chef, il y a le corps. Alléluia. Et nous faisons tous partie du corps. Que nous prêchons, c'est simplement une grâce qui nous fait. Que nous chantions, que nous dirigeons la louange, c'est simplement une grâce qui nous accorde. Que nous soyons des apôtres et que par nous, nous ouvrions des églises, nous implantions des églises, eh bien, ce n'est pas pour autant que nous devenions spéciaux. Nous sommes toujours et encore toujours des pécheurs sauvés par grâce. Gloire au Seigneur. Voyez, cet homme, dans sa folie, dans son arrogance, dans son égoïsme, dans son égo plus que surdimensionné, eh bien, ne va pas tolérer tous ceux qui, par leur ministère, pouvaient lui faire de l'ombre. C'est ainsi qu'il ne voulait pas accueillir les prédicateurs itinérants. Il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, on avait des prédicateurs des hommes qui proclamaient la parole de Dieu, qui allaient de ville en ville, et quand ils arrivaient dans une ville, eh bien, les églises les accueillaient. Et puis l'église leur offrait le gîte et le couvert, l'hospitalité. C'est une valeur chrétienne. La Bible déclare que beaucoup, en logeant, en ayant usé de l'hospitalité, ont logé des anges sans le savoir. Vous ne pouvez pas savoir que cet homme ou cette femme qui se présente en vous comme étant un nécessiteux, c'est peut-être un ange déguisé. Lui était contre ça. Et en étant contre l'hospitalité, il était aussi contre la parole de Dieu qui nous demande d'être hospitaliers, n'est-ce pas? Cet homme, non seulement il refusait tout ça, mais Jean affirme qu'il répandait contre nous des paroles mauvaises, des paroles diffamatoires, calomnieuses, vous voyez, des paroles pour discréditer l'apôtre Jean et son autorité apostolique, et amener les gens à ne pas reconnaître Jean comme étant revêtu par le Seigneur lui-même de l'autorité apostolique. Vous voyez? Il n'aime à être le premier. Il ne nous reçoit pas, non seulement physiquement, mais aussi il ne reçoit pas la parole. Voyez-vous? La parole de Dieu, la vérité, et devient lui-même la référence absolue. Voyez-vous? Un homme plein de calomnies, des paroles mauvaises à l'égard des autres. Mes amis, ça ce sont des attitudes du monde, oui ou non? La calomnie, la diffamation, l'orgueil, l'arrogance, tout cela, mes amis, sont des choses qui appartiennent au monde parce que le monde est sous l'influence du malin. Et le malin, une des caractéristiques du diable, qui est au-dessus d'ailleurs de toutes ces caractéristiques, c'est l'orgueil. C'est par orgueil qu'il a péché. Il avait voulu être comme Dieu. C'est comme ça que Dieu l'avait chassé. Et il avait entraîné dans sa rébellion, eh bien, beaucoup d'anges qui aujourd'hui sont des démons et sont à son service. Vous comprenez? Donc, tout cela, ce sont des attitudes du monde. Un homme ambitieux. Et à la base de cette ambition, l'arrogance. Et à la base de cette arrogance, eh bien, il y a l'orgueil. L'orgueil. Il cherche à écraser tout le monde. Voyez? Si vous le contrariez, il vous met dehors de l'église. Si ça ne vous plaît pas, dépassez! Vous avez déjà entendu, hein, des pasteurs qui se comportent comme ça, hein? Ouais. Moi, j'en ai vu. Des véritables despotes qui utilisaient la parole de Dieu pour maintenir les gens dans une sorte de dépendance qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Personne ne peut nous asservir. Ne vous laissez pas asservir, mes amis. Ne vous laissez pas influencer. Il y a des gens qui ont une certaine autorité démoniaque. Ils sont là, ils chassent les gens. Fini. Pas. C'est mon église. C'est ceci, c'est cela. Allez. Si c'est ton église, donc ce n'est plus celle du Seigneur. Oui ou non? Nous sommes tous membres de son église. Eh oui, Diotref, avec toutes ses caractéristiques, était un chrétien thermomètre. Il y en a d'autres. Dans 2 Timothée, chapitre 4, on nous parle de deux personnes très rapidement, pour terminer. Le premier, c'est Démas, qui était aussi un collaborateur de Paul, mais qui à un moment va l'abandonner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4, verset 10? Car, d'abord il demande à Timothée de venir le rejoindre au plus tôt. Il avait besoin que quelqu'un vienne l'assister. La communion fraternelle, mes amis, l'entraide, n'est-ce pas des valeurs du royaume des cieux? Mais écoutez ce qu'il a dit, écoutez ce qu'il ajoute. Car, dit l'apôtre Paul, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il m'a abandonné, gagné par quoi? Par le monde. Voyez-vous? Voyez? Peut-être qu'il avait été en contact avec certaines doctrines qui ne reflètent pas la réalité du christianisme apostolique, de doctrines qui rejettent la souffrance. Hein. Vous savez, il y en a qui enseignent que quand on est malade, donc on n'est pas chrétien. Alors, je suis avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je ne suis pas tombé malade. Eh bien, alors vous n'avez rien compris. C'est peut-être la preuve que vous n'êtes pas avec le roi des rois. Car vous ne pouvez pas être plus avec Jésus que ne l'a été Paul. Hein? Oui ou non? Paul ici est dans le chêne. Hein? Lui aussi. Hein? Lui d'ailleurs, il s'est converti de manière extraordinaire. Il aurait pu demander, Seigneur, tu es le roi des rois, tu as vaincu. Allez, je vais terrasser tous mes ennemis. Non, il va mourir, mes amis, en prisonnier. Ta prison de l'amertume à Rome. L'apôtre bien-aimé. Non pas seulement lui, hein? Pierre. Des gens qui ont vu Jésus, des gens qui ont mangé avec Jésus, mais qui cependant ont connu la souffrance. Voyez. Et lui-même, écrivant toujours à Timothée, dira, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ?» Celui qui dit ça, c'est l'apôtre bien-aimé. Mais nous, aujourd'hui, on veut évacuer la souffrance de la réalité spirituelle. Dès que quelqu'un est malade, il tout... ah, c'est un démon, il faut le chasser. Dès qu'on a la fièvre, non, ça c'est la température des démons. Ah, et là, mes amis, ça ressemble à tout, sauf au christianisme évangélique, au christianisme apostolique. Et Paul l'a dit, il m'a abandonné par amour pour le monde. Il est parti. Un autre, toujours dans cette même épître, Alexandre. Alexandre le forgeron, versets 14 à 15, m'a fait beaucoup de mal. le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Ce sont des gens de l'Église, oui ou non? Eh oui, des chrétiens thermomètres qui agissent. Quand il dit, il s'est fortement opposé à nos paroles, eh bien, il est comme les gens de l'époque qui s'opposaient à l'Évangile et qui persécutaient les apôtres, oui ou non? Eh bien, c'est la même attitude. Chrétien, thermomètre. Et enfin, nous terminerons par là, le chrétien thermostat. Eh bien, le chrétien thermostat est celui dont la température morale et spirituelle reste constante. Qu'il pleuve, qu'il neige, eh bien, lui reste constant. Le feu continue à brûler en lui malgré le froid glacial qui l'entoure. Alléluia. Oui, le chrétien thermostat, sa température est maintenue constante par l'action conjuguée et de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le cas de Gaius. Paul, et plutôt Jean, lui rend ses témoignages. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, je me réjouis beaucoup. Des frères sont arrivés, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Oh, alléluia! Eh bien, le chrétien thermostat est celui qui est habité pleinement par la parole du Christ, qui est habité pleinement par le Seigneur lui-même. Eh bien, c'est le chrétien qui jouit d'une communion extraordinaire avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Mes amis, pour terminer, si nous sommes remplis du Seigneur, alors le monde ne pourra pas trouver une faille afin de pouvoir nous influencer. Il ne trouvera pas, mes amis, une brèche par laquelle s'infiltrer. Pas du tout. Si Christ remplit tout en nous, nous pouvons être au milieu d'un monde glacial à tout point de vue et continuer à brûler à l'intérieur. Alléluia. Car le feu de l'Esprit est entretenu constamment, nous maintiendra la température morale et spirituelle de nos cœurs à la température céleste. Gloire au Seigneur. Lorsque lui, la lumière du monde, occupe toute la place en nous, croyez-moi, quelle que soit l'intensité des ténèbres, quelle que soit la pression des ténèbres, rien ne pourra nous déstabiliser. Les ténèbres s'approcheront, et vous savez tous le sort qui est réservé à l'obscurité lorsqu'elle est en contact avec la lumière. Dans ce combat-là, eh bien, la lumière est toujours vainqueur. Alléluia. La lumière finit toujours par triompher. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que d'être remplis de Jésus. En étant remplis de Jésus, en étant remplis du Saint-Esprit, avec une communion intime profonde avec l'Esprit de Dieu, en étant habité par la parole de Dieu qui est la vérité, cette parole que les apôtres nous ont laissée, et non pas toutes ces fables habilement conçues qui sont partagées dans certains milieux, eh bien, en étant habité par tout cela et en marchant de cette manière, selon la parole de Dieu, notre température intérieure restera constante. Alléluia. 10 ans après, nous aurons toujours la même passion pour le Christ. Nous aurons toujours la même passion pour les âmes. 20 ans après, nous serons toujours là, louer le Seigneur. Alléluia. 30 ans après, nous serons toujours là à prêcher la parole de Dieu. Et les gens se demandent, mais quel est son secret? Il n'y a pas d'autre secret. Demeurer un chrétien thermostat. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Le Seigneur t'a parlé. Toi seul sais exactement où tu en es. Quelle est la nature de ton cœur? Es-tu simplement un croyant thermomètre qui s'adapte au milieu dans lequel il évolue, qui se laisse facilement influencer, qui vit en conformité avec certains principes du monde qui cependant sont en abomination à Dieu, sont aux antipodes des principes du royaume? Quand tu es avec les gens du monde, tu es comme eux, tu parles comme eux, tu te comportes comme eux. lorsqu'ils font des magouilles, tu cautionnes, voyez. Et puis tu leur promets même de prier pour eux après. Eh bien, si tel est ton cas, j'aimerais aujourd'hui que le Seigneur t'aide. Lève simplement la main où tu es, afin que nous prions. Merci pour les mains qui se lèvent. Afin que nous prions pour que le Seigneur t'aide à ne plus être de cette nature, c'est-à-dire thermomètre, mais à devenir désormais un chrétien thermostat. Pour que le Seigneur maintienne cette température en toi, toujours constante, et ce, quel que soit le contexte. Merci pour les mains qui se sont levées. Eh bien, je veux prier pour vous. Et pendant que je prie, implorez la grâce de Dieu, demandez pardon. Dites, Seigneur, je n'ai pas la force de résister à la pression du monde. Je me laisse facilement influencer. Et cette influence finit par détériorer ma relation avec toi. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de conformer ma vie, non pas aux principes du monde, même lorsque ces principes contribuent à un bonheur éphémère, mais que je vive selon les principes de ton royaume. Je vais prier donc pour vous. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole. Oh, tu vois, mon Dieu, combien ces bien-aimés ont levé leurs mains, parce qu'ayant été interpellés par ta parole, parce qu'ayant réalisé qu'ils sont des chrétiens, des croyants thermomètres, des chrétiens, des croyants, Seigneur, qui s'adaptent, qui se conforment au monde. Mais aujourd'hui, je prie pour que tu brûles l'amour du monde dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu renouvelles leur intelligence, Seigneur, que tu amènes un changement radical, un changement, Seigneur, vrai, une transformation, une métamorphose digne de toi, qui les amène, Seigneur, à désormais brûler de ton feu. Car il n'y a que ton feu qui peut maintenir notre température aux normes célestes. Bénis-les, Seigneur, et assiste-les. Qu'ils puissent être habités par la vérité comme Gaius. Qu'ils puissent vivre dans la vérité comme Gaius, Seigneur. Ce frère, ce bien-aimé, qui est un exemple, un modèle, une illustration de tous les croyants thermostats. Merci Jésus. Merci de nous bénir tous et de nous garder, de sombrer dans une sorte de thermométrie spirituelle, Seigneur. Garde-nous, ô Dieu, aide-nous à rester fidèles à toi, à avoir toujours nos cœurs attachés à toi la lumière. Alors nous brûlerons de ton feu. Alors notre température sera toujours la bonne température qui éloignera de nous tout ce froid glacial du monde, ce froid mortifère du monde, et nous maintiendra ainsi en vie et nous aidera à poursuivre notre route avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Maître.